Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, si vous sentez beaucoup de soleil dans ma voix, c'est que depuis ce matin, j'arrête pas de rigoler. Vous vous souvenez à l'époque de Rock et Belles Oreilles, RBO, ils faisaient des sketchs qui étaient vraiment des caricatures, là, c'était grotesque. Bon, mais il y a une vidéo qui circule beaucoup en ce moment sur les médias sociaux et la première fois que je l'ai regardée, je me disais, bon ben c'est un sketch de RBO ou c'est des humoristes quelque part, ils ont décidé de faire ce sketch-là. Ben non, c'est bel et bien vrai. Pourquoi je vous parle de cette vidéo-là, je vais vous faire écouter bien sûr un extrait dans quelques secondes. C'est que le 11 octobre, toute la mouvance anti-masque, donc Lucie Laurier, Alexis Cossette-Trudel, organise un grand rassemblement à Montréal au parc Jarry et qu'il va y avoir des conférenciers. Et parmi les conférenciers, ben il y a 4 pasteurs. Parmi les pasteurs qui vont parler cette journée-là, donc cet événement anti-masque contre les mesures sanitaires du gouvernement, il y a un pasteur qui s'appelle Jean-François Denis. Écoutez, je vous fais écouter un extrait d'une de ces vidéos, c'est à se faire pipi dessus.
Renonce à ton incrédulité, mais prononce qu'en Jésus, ta victoire a été certifiée.
Renonce à par tes forces faire, mais prononce que son esprit, à travers toi, sera à nouveau le faire. Renonce à adresser tes ennuis par tes propres forces, mais prononce dans la prière à Satan que par la foi, ta victoire s'amorce. Renonce à regarder à tes situations d'un point de vue terrestre, mais prononce sur eux une perspective céleste.
Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui a obtenu un grand succès dans la vie sans avoir vécu une histoire de renoncement face aux défis. Rien ici-bas n'est gratuit, si ce n'est le salut pour qui Jésus a payé un fort prix. Il nous faut donc lui faire confiance et apprendre à renoncer. Si nous voulons le voir au cours de notre existence,
sur nous,
en nous,
à travers nous,
se lever.
Et là 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 là, alors imaginez ce monsieur, ce pasteur, donc Jean-François Denis, qui va être présent à ce rassemblement des anti-masques. Écoutez, la perspective céleste, renoncer à Satan, je veux dire, je comprends les gens qui sont qui posent des questions face aux mesures du gouvernement, mais vous êtes en déficit de crédibilité, les amis. Alors, si vous organisez un rassemblement comme celui du 11 octobre et que vous acceptez la présence parmi vous de gens comme Jean-François Denis et ses acolytes, ça va pas faire grand-chose pour augmenter votre taux de crédibilité. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est que les gens qui sont anti-masques, qui remettent en question les mesures sanitaires du gouvernement, nous disent « ben le gouvernement nous ment, le gouvernement nous cache des choses, les journalistes font pas leur job comme il faut, ils sont pas crédibles, ils nous disent des menteries, le gouvernement nous ment, les journalistes nous mentent ». Ben puis vous invitez des gens qui parlent de Satan, puis dire qu'il faut renoncer à Satan, puis laisser Jésus rentrer chez nous et tout ça. Ben, c'est parce que, si vous voulez qu'on parle de vérité, je veux dire, vous devriez peut-être laisser de côté des gens qui ne se basent pas sur des preuves scientifiques. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont la foi, mais ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Alors écoutez, j'espère que je vous ai bien fait rigoler avec cet extrait. Mais je pense qu'il y a vraiment toute une recherche qui doit être faite sur ces différents pasteurs qui sont associés à cet événement du 11 octobre. Écoutez, on nous annonce que ça va être des conférences avec un spectacle gospel, un concert gospel, une manifestation. On mélange tout, les amis, là. C'est quoi? Lucie Laurier va commencer à frapper dans ses mains en nous disant « Hey, Jesus! » C'est quoi ça? S'il vous plaît, là, les gens qui sont anti-masques, ayez un petit peu plus de rigueur. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Vous voulez qu'on vous écoute? Ben, associez-vous avec des gens qui sont sérieux et certainement pas des gens comme le pasteur Denis. Vraiment, quand je vois des affaires comme ça, puis écoutez, j'en ris encore. Quand je vois des affaires comme ça, quand j'entends des affaires comme ça, je pousse un grand. Ben, voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Habituellement, quand un chef d'État, quand un chef de gouvernement, plutôt, fait une adresse à la nation, c'est que l'heure est grave, puis il y a quelque chose à nous dire là, qu'il nous a pas dit avant, puis que vraiment, il va nous prendre par le collet, puis il va nous faire une annonce importante, puis que vraiment, ça va nous ébranler jusque dans nos fondations les plus intimes. Donc, hier soir, à 6h30, écoute tous les réseaux de télé à travers le Canada, vraiment d'un océan à l'autre, était sollicité parce que Justin Trudeau devait nous parler. Je suis très curieuse de savoir ce qu'en pense mon collègue Joseph Facal. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie.
Qu'as-tu pensé de ce discours à la nation qui avait plutôt l'air d'un pétard mouillé de la part de Justin Trudeau hier soir?
J'en ai pensé pouette. Ce que tu viens de dire.
Ben là!
Non, vraiment, j'ai comme l'impression que c'est comme si, au risque d'avoir craint d'assommer les gens avec le discours du trône en après-midi, il a voulu, si tu veux, nous dire « Non, je n'oublie pas que nous traversons une crise très, très sérieuse et je continue à être présent. » Au fond, c'était pas tellement différent que toutes les sorties qu'il
ben
a
oui.
fait à 11h du matin devant son petit lutrin au Sussex Drive depuis des mois. Non, je te dirais que ce qui véritablement m'a secoué hier, c'est ce que Julie Payette nous a lu au nom du gouvernement Trudeau. C'est-à-dire que pour ceux qui avait jusque-là le moindre doute, plus aucun doute n'est permis. Justin Trudeau est en campagne électorale.
Absolument.
Il a décidé d'acheter sa réélection et tant pis pour le futur et tant pis pour les intrusions dans les compétences des provinces. Et, Sophie, il est cruellement ironique de lire ce matin la déception de François Legault. Alors, François Legault, évidemment, est dans un parti où à peu près un membre sur deux est un ancien souverainiste. Ils ont décidé de jouer le jeu canadien. Oh, ironie! Le premier ministre du Québec est maintenant le président du Conseil de la Fédération. Donc, il parle au nom, si tu veux, de tous les premiers ministres provinciaux. Et aujourd'hui, évidemment, la CAQ se retrouve gros gens comme devant, disant sa déception. Ben voyons, on le voyait venir, hein?
Mais je comprends quand tu dis l'ironie, c'est qu'en fait, quel meilleur moyen d'être maître de sa propre destinée que de devenir autonome, de devenir indépendant. Si tu t'en remets au pouvoir à Ottawa, ne sois pas surpris si Papa Trudeau dans le sens, pas le père, mais le fils, mais je veux dire, cette figure parentale s'immisce dans ce qui normalement devrait être une prérogative provinciale. Donc c'est un petit peu comme si il disait, ben on a choisi de rester, de continuer à habiter chez papa-maman, puis on s'étonne que papa et maman nous disent qu'il faut que tu sois rentré à la maison à 8 heures le soir. Là.
Ben, exactement. C'est pas compliqué, tu sais. Il en va des peuples comme il en va des individus. On se gouverne soi-même ou on est gouverné par d'autres.
Alors, voilà.
À partir du moment où M. Legault a choisi le jeu canadien, et jusqu'à un certain point, je peux comprendre beaucoup de souverainistes d'être amers, déçus, triste, de chiquer la guenille, de se dire « on y arrivera jamais ». Bon, mais aussi, il faut comprendre que jouer le jeu du Canada, ben, c'est jouer le jeu d'un régime de plus en plus centralisateur, surtout quand ce sont les libéraux, et c'est aussi, il faut bien le voir, gérer le déclin démographique des francophones au sein du Canada et forcément la perte d'influence qui en résulte. Sur une question, par exemple, comme les transferts en santé, je te rappelle, ainsi qu'à nos auditeurs, que les premiers ministres des provinces sont tous unanimes. Mm-hmm. Ça n'empêche pas le gouvernement Trudeau de faire à sa tête.
Avec ses grosses bottes. Ben oui, c'est ça. Ben puis oui. De piétiner justement ce consensus des provinces. Écoute, je voulais absolument t'entendre donc sur ce discours pouet de Justin Trudeau. Juste revenir. Je sais que les gens ont peut-être trouvé que c'est superficiel alors qu'on va parler d'apparence plutôt que de parler de contenu. Mais il y a une chose qui m'a frappée dans ce discours à la Nation de Justin Trudeau, c'est que bon, comme tu le disais, tout depuis le début de la pandémie, il nous a fait ces petits points de presse à 11h où il lisait manifestement quelque chose qui avait été écrit, donc aucune spontanéité, aucun naturel. Et j'aurais pensé qu'hier, au moment justement où son avenir politique quand même était en jeu, parce que les partis votent contre son discours du trône, ben on risque de se retrouver en élection. Donc il y avait quand même des enjeux importants. Et quand tu dis « je vais faire un discours à la Nation, toutes les stations de télé vont diffuser mon discours », je pense que ça aurait été le temps, justement, de laisser les textes déjà écrits et de nous parler dans le blanc des yeux. Je trouve qu'il y a une opportunité manquée, là, de la part de Justin Trudeau. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Oui. Écoute, Sophie, on a beaucoup ironisé sur le fait que Justin Trudeau accède en 2015 à la fonction de premier ministre du Canada en étant probablement l'un des moins préparés de toute notre histoire à assumer cette fonction. Et on a souvent dit, s'il s'était appelé Justin Tremblay plutôt que Justin Trudeau, jamais il n'aurait été premier ministre. Et nous avons beaucoup ironisé, rappelle-toi, sur le fait qu'il a longtemps été moniteur de planche à neige et prof de théâtre dans une école secondaire. Eh bien, moi, pour un prof de théâtre, je le trouve fort mauvais acteur.
Très mauvais? Ben oui, mais c'est drôle, je me suis fait la même réflexion hier. Oui.
Il manque totalement de spontanéité, il a l'air d'un automate, et même quand il verse des larmes devant les pensionnats autochtones, je cherche le bouton « on ». Tout a l'air sur commande. Et à la limite, quelqu'un comme François Legault, qui, d'une certaine manière, la joue modeste, la joue empathique, la joue père de famille, la joue bon Québécois, ben, d'une certaine manière, il dégage, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, une sincérité.
Absolument.
Une sincérité que je ne sens pas du tout chez Mr. Selfie.
Oui, oh, Mr. Selfie. Ben oui, c'est parce que de ces temps-ci, il peut pas faire des selfies, que veux-tu, là, il faut garder le 2 mètres, ça doit le traumatiser. Je pense qu'il est en choc post-traumatique, mais il y a juste un moment donné où il a voulu faire son petit jeu de rôle en disant bon, moi je suis comme vous, tu sais, c'est quand il parlait en français, puis à un moment donné, il dit au Canada, on se relève les manches, puis on dit je suis capable. Écoute, la façon dont il a dit ça, je trouvais ça tellement condescendant. T'es pas obligé de mal parler, t'es pas obligé de prendre ton gros accent québécois pour revenir nous chercher, nous les francophones. Je trouvais que ça sonnait faux, ça sonnait phoné, ballonné.
Surtout de la part de quelqu'un qui parle bilingue, c'est-à-dire comme le disait jadis Pierre Bourgault, qui lui parlait de Jean Chrétien, il dit c'est merveilleux avoir deux langues officielles. Il y a des gens qui les parlent les deux en même temps. On a effectivement l'impression en écoutant Justin Trudeau que ce sont souvent des mots français plaqués sur une syntaxe souvent anglophone. Mais bon, d'une certaine manière, ce qui me frappe, la question qui me turlupine, c'est que les prochaines semaines, même les prochains mois, vont aussi être une sorte de test de la mémoire des Canadiens. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura évidemment arrosé le Canada de milliards, est-ce que les gens vont se rappeler, n'est-ce pas, du scandale We Charity, de SNC-Lavalin, des vacances privées sur l'île de son ami Lagacan. Autrement dit, si tu veux, pour un gouvernement si prompt à faire la morale à la planète entière, ils ont eu l'élastique de l'éthique assez lousse, merci, si tu veux.
En effet, alors, tout à fait. On verra bien. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question que tu poses. Et en effet, le scandale de We Charity, il ne faut jamais. Et c'est notre rôle, nous, comme journalistes, de taper sur le clou, de rappeler quand même, selon moi, un des pires scandales depuis le scandale des commandites. L'affaire We Charity, vraiment, il ne faut pas que ce soit balayé sous le tapis par le gouvernement libéral. Écoute, je veux absolument, Joseph, te parler de ton texte de ce matin sur Montréal. Écoute, vraiment, c'est à n'y rien comprendre, la déconnexion totale entre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le terrain. On a l'impression qu'elle ne connaît pas du tout la réalité. Et cet exode des gens dont tu parles dans ton texte de ce matin, des gens qui ne veulent plus mettre les pieds à Montréal parce que c'est devenu invivable.
Écoute, Sophie, on a beaucoup ironisé sur la République du Plateau et cette espèce de faune un peu bien-pensante, bon chic, bon genre, qui n'a évidemment que la solidarité à la bouche, mais qui habite des beaux quartiers gentrifiés desquels les pauvres ont été écartés et qui évidemment aime le vélo, l'écologie, toute bonne chose par ailleurs. Au fond, ce qui me frappe, c'est que c'est comme si Mme Plante gouvernait pour ceux qui l'ont élue. C'est-à-dire une mouvance très à gauche, type Québec solidaire, mais en réalité, pour faire vivre une ville qui a des prétentions de métropole, il faut un peu tout le monde. Et dans ce tout le monde, ben, il faut aussi les méchants banlieusards. Sophie, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que Valérie Plante, en plus d'être mairesse de Montréal, elle est la présidente de la communauté métropolitaine du Grand Montréal.
Tout à fait.
Ça inclut également les affreuses couronnes dont bien des gens viennent travailler et magasiner à Montréal. Et ceux-là, évidemment, sont en train de repartir. Ceux-là, on a tout fait pour les écœurer. Les commerçants, évidemment, n'en peuvent plus. Et c'est comme si Mme Plante, belle au bois dormant, embrassée par je ne sais quel prince charmant, sortait finalement d'un long sommeil et découvrait que ça va mal à Montréal. Ben, coudonc, elle était où pendant tout ce temps-là?
Mais surtout, c'est que tu ne peux pas gouverner une ville, tu ne peux pas gérer une ville en pensant seulement aux gens qui y habitent. Il faut que tu tiennes compte de tous les gens qui y travaillent, qui viennent y faire des achats, qui viennent parfois de l'extérieur pour y mener leurs enfants qui vont à l'école. Et donc, toute cette mobilité-là, ben c'est plate, là, mais ça se fait pas à vélo. Tu sais, il y a quelqu'un qui partira pas de la rive sud à vélo, même si le pont Jacques-Cartier, on nous annonce que la piste cyclable sur le pont Jacques-Cartier va être accessible 12 mois par année. J'imagine pas quelqu'un partir de Brossard avec ses deux enfants qui amènent à la garderie parce qu'il travaille au centre-ville de Montréal, puis qu'après ça, il a besoin d'aller faire des courses, puis qu'il va reprendre ses enfants à 5 heures pour les ramener, puis traverser le pont Jacques-Cartier. Voyons, c'est pas réaliste, là, c'est complètement loufoque.
Voilà, c'est la question que je pose dans mon texte de ce matin. Au fond, à qui appartient une ville? Est-ce qu'elle appartient à ceux qui y dorment ou est-ce qu'elle appartient à ceux qui la font vivre? Et si on pense qu'elle appartient à ceux qui la font vivre, eh bien, ça inclut les gens qui, ben oui, viennent y apporter une contribution économique. Et si ces gens-là ne reviennent plus, et si les chantiers n'en finissent plus, et si on écœure les commerçants, et si les touristes, pour des raisons bien connues, bien compréhensibles, ne reviennent pas, ben à ce moment-là, il va se passer quoi?
Ouais. Écoute, je sais pas si t'es promené récemment dans le centre-ville, on a l'impression d'être dans une ville fantôme, tu sais, comment ça s'appelle? Val-Jalbert. Je sais pas si t'as déjà fait un tour à Val-Jalbert. Écoute, c'est une ville fantôme, là, on a l'impression que ça a été complètement déserté. Les restaurants ferment les uns après les autres, les tours à bureaux sont évidemment inoccupés ou occupés à 20% de leur capacité. Donc, tout ce qui gravite autour de ça, tu sais, tu te promènes près du campus de l'Université McGill, domicile. Évidemment, les étudiants étudient à distance. Donc, il n'y a plus toute cette foule qui fait le pouls vraiment du centre-ville. Puis, à la place, t'as des rues barrées, les travaux. Écoute, ça n'en finit plus. C'est vraiment une écœurantite aiguë.
Bien sûr, et je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement que le télétravail ne fait pas l'affaire de beaucoup de gens. Mais à l'inverse, le télétravail est quelque chose que découvrent avec plaisir beaucoup de gens. Et
voilà.
Je t'assure, Sophie, qu'un tas d'entreprises sont en train de réaliser qu'elles sont à peu près aussi productives en gardant leur monde chez eux. Et donc, évidemment, il y aura des grands propriétaires d'espaces à bureaux à Montréal qui vont se retrouver très bientôt avec des dizaines de milliers de pieds carrés inoccupés. Beaucoup de grandes entreprises sont en train de se redéployer en intégrant cette nouvelle réalité d'un télétravail qui est là pour rester, du moins pour une frange de leurs employés. Alors ça, évidemment, ça soulève toutes sortes de problèmes et c'est comme si Mme Plante, tout d'un coup, ben oui, découvrait le besoin de développement économique. Bon, soyons bons princes, je comprends que tout ce qui est relié à la pandémie et au télétravail...
Mais oui, c'est pas de sa faute à elle.
Tombé dessus. Voilà, ça nous est tombé un petit peu dessus sans que personne ne l'ait vu venir. Mais avant cela, dis-moi, ça fait combien d'années que les commerçants sur la rue Saint-Denis sont écœurés et n'en peuvent plus?
Parce qu'il y avait des travaux à pu finir. Voilà. Il y avait des travaux finir.
On a l'impression de se promener à New York aux environs de 1982 à peu près. Là, avant
tout à fait. Oui. Mais c'est aussi que toute cette pandémie-là et les conséquences que ça a, je trouve que ça va nous forcer à redéfinir c'est quoi le centre d'une ville. Si le centre d'une ville, c'est là où il y a les tours à bureaux, les restaurants et les universités, mais que ces trois éléments-là se trouvent vidés, ben ça veut dire que le centre d'une ville, il va y en avoir 6, il va y en avoir 7. Peut-être que les gens vont beaucoup plus aller dans un quartier justement comme le Plateau. Ils vont aller dans Outremont, ils vont aller dans le vieux Montréal. Tu comprends, ce sera plus au coin de Peel et Sainte-Catherine que ça va se passer. Il va y avoir plein de mini-centres dans la ville qui vont être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus intimes, beaucoup plus avec des commerces de proximité. Puis c'est peut-être ça le Montréal de demain. Mais si c'est ça le Montréal de demain, il faut qu'on y réfléchisse, puis qu'on y réfléchisse tout le monde ensemble. Puis t'as tout à fait raison, Valérie Plante a l'air de venir de découvrir ça comme si ça venait d'arriver. Joseph, plaisir.
Moi, je conçois bien qu'il faille repenser les villes du futur. Mais si on veut sérieusement les repenser, ça veut en tout cas dire sortir un petit peu des œillères idéologiques qui semblent avoir été celles de Mme Plante et de sa gang depuis déjà quelques années.
Ouais, écoute, je prends le temps vraiment parce qu'il nous reste 30 secondes. Si t'as envie de rigoler, va sur le compte Twitter de Marie Plourde. Elle a mis au début du mois de septembre une photo d'un nouveau concept, ça s'appelle les brouettes urbaines. Et c'est donc, si tu vas magasiner sur l'avenue Mont-Royal et que tu peux pas évidemment te stationner, donc tu laisses ta voiture plus loin, tu vas faire tes achats dans un des commerces, puis tu mets tes achats dans une brouette, puis tu prends ta brouette et tu l'amènes jusqu'à ton auto. Je sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer, Joseph.
Est-ce que tu te rappelles de cette série qui a bercé notre enfance? Ça s'appelait Les Arpents Verts. C'était l'histoire d'une famille de fermiers un peu demeurés. On a un peu l'impression de revivre ça.
t'es encore plus méchant que moi, Joseph. Je t'embrasse. Merci. Ça a été un plaisir de te parler.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a deux rapports absolument dévastateurs qui ont été dévoilés hier concernant le fiasco, puis encore fiasco, c'est un euphémisme, dans les CHSLD Erin et Sainte-Dorothée à Laval, des problèmes de personnel qui ont été déplacés d'un endroit à l'autre, mauvaise gestion, et en particulier dans le cas du CHSLD Erin, vous vous souvenez de vraiment de l'histoire d'horreur que ça avait été quand on a découvert la situation dans ce CHSLD au printemps. Et c'est une histoire, un scoop, en fait, du journaliste de la Gazette, Aaron Derfel, qui est vraiment spécialisé dans les questions de santé au Montréal Gazette. Donc, quand j'ai vu que le rapport sortait sur le CHSLD, Aaron, je me suis dit, il faut absolument parler à Aaron Derfel pour voir ce qu'il en pense. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Derfel.
Bonjour, Sophie.
Bonjour. Alors, écoutez, on rappellera jamais assez à quel point c'est vous qui avez été le premier à mettre en lumière la situation horrible qu'il y avait au CHSLD Aaron, des résidents qui étaient dans leurs excréments depuis plusieurs jours, déshydratés, une mauvaise qualité de soins. Quand vous avez pris connaissance du rapport sur ce qui s'est passé au CHSLD, comment vous avez réagi, Aaron?
Je pense que, d'abord, le rapport est exhaustif. Je salue Sylvain Gagnon, l'ancien sous-ministre de la Santé, qui a mené son enquête. La chose que j'ai trouvée le plus étonnant, c'est que on savait qu'il y avait, avant la tragédie, à un moment donné, il y avait un rapport de protecteur de citoyenne. Mais ce que M. Gagnon a découvert, qu'il y avait 8 inspections à plusieurs niveaux, l'Ordre des infirmières, le Conseil québécois d'agrément, qui datait de 2017. 8 inspections. Alors, comment se fait-il qu'il y avait beaucoup d'inspections et rien n'était fait?
Ça, c'est décourageant.
C'est la chose que j'ai trouvée, oui, le plus honteux de cette histoire.
Honteux, c'est vraiment le mot que vous utilisez, Aaron, pour décrire la situation. Parce qu'en effet, comment peut-on expliquer en 2020 que des résidents d'un CHSLD soit l'objet de si mauvais traitements, alors que, disons, la sonnette d'alarme, hein, disons ça comme ça, aurait été tirée depuis 3 ans. Parce que 8 inspections, ça fait beaucoup. On se retrouve avec des gens qui ont trouvé la mort. C'est pas rien. Vous dites que le rapport de M. Gagnon est très complet, il est très exhaustif. Ce qu'on comprend aussi, c'est que les gens qui ont géré le CHSLD, Aaron, sont fautifs. Ils ont vraiment regardé ailleurs pendant que leur résident était en train de mourir, littéralement, non?
Oui, exactement. La gestion a été épouvantable, tragique. Il y avait une pénurie, un roulement des effectifs. Ils ont caché des accidents, des incidents à l'intérieur de l'établissement depuis longue date, même avant la pandémie. Et c'était horrible. Ils avaient à l'intérieur un commissaire des plaintes, mais le commissaire des plaintes n'était pas tout à fait indépendant. Elle n'a pas rédigé beaucoup des plaintes. Donc, et même pendant l'enquête de Monsieur Gagnon, il a observé que les propriétaires étaient mal à l'aise, voulaient pas divulguer les documents jusqu'à la dernière minute. Alors ça, c'est
incroyable.
Incroyable.
Incroyable parce que on parle pas d'une usine qui fabriquait des chaussures ou une usine de chocolat. Là, on parle d'une résidence privée, d'un CHSLD privé où les gens en plus payaient très cher pour être là.
Oui, jusqu'à 10 000 $. Et on parle de c'est un groupe qui s'appelle Groupe Kataza et qui gère 6 autres établissement pour les aînés au Québec. Une des recommandations, c'est que le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal continue à gérer l'institution. Une autre chose que j'ai trouvé aussi étonnant, c'est que on doit blâmer sûrement, peut-être à 99% les propriétaires. Mais comment se fait-il que le 27 mars 2020, le directeur général de Heron a avisé, a informé le CIUS qu'il y avait une pénurie des effectifs, qu'il y avait un manque des gants et des masques. Et puis, le lendemain, les gens ont commencé à abandonner les résidents. Donc, Ce que M. Gagnon n'a pas répondu, il a soulevé la question, mais il n'a pas donné la réponse. Mm-hmm. C'était quoi la réaction de CIUSSS quand le CIUSSS était informé? Oui, exactement. Oui. Ça, c'est une autre chose troublante, d'après moi.
C'est très troublant, en effet. Vous avez tout à fait raison, Aaron Derfeld, de soulever ça. D'autant plus que dans cet autre rapport sur l'autre CHSLD problématique, celui de Sainte-Dorothée à Laval, on note à quel point il y a beaucoup de paliers avant de se rendre à quelqu'un qui peut prendre une décision. On parle de 5 palier entre la personne qui est responsable du CHSLD et la personne qui est responsable tout en haut de la pyramide au CIUSSS qui gère le CHSLD. Donc c'est pas normal. On a créé une infrastructure, Aaron, où quelqu'un qui est sur le terrain, il y a 5 paliers de décision au-dessus de lui avant qu'on puisse donner le feu vert à quoi que ce soit. C'est beaucoup trop, 5 paliers.
Oui, trop de bureaucratie. Et pour revenir au Heron, il fallait envoyer 2 mises en demeure parce que le 29 mars, le CIUSSS a mis en tutelle le Heron, mais il y avait une résistance quand même. Et il fallait que Dr. Mylène Drouin a invoqué un article de la loi sur la santé pour donner une ordonnance pour assumer le contrôle total. Alors, encore des problèmes avec peut-être au niveau juridique, mais aussi la bureaucratie. Mm-hmm. Et une des recommandations est évidemment de renforcer les lois pour protéger nos aînés.
Oui. Aaron, on le sait, vous avez, donc c'est vous qui avez sorti l'histoire du Heron, et depuis que vous avez sorti cette histoire-là, régulièrement, dans la Gazette, sur les médias sociaux, vous questionnez, je vais dire ça comme ça, vous questionnez différentes décisions du gouvernement. À deux reprises. Oui. À deux reprises, oui. Le premier ministre François Legault s'en est pris à vous en disant que vous étiez en partie responsable du fait que chez les anglophones, on avait beaucoup plus de craintes par rapport à la COVID. Donc, il vous a pointé du doigt, vous, comme journaliste. Est-ce que vous avez l'impression que le rapport de Monsieur Gagnon, qui dit que finalement vous aviez raison sur toute la ligne sur Heron, est-ce que vous pensez que Monsieur Legault va être plus indulgent à votre égard à l'avenir?
J'espère. j'ai beaucoup de respect envers le PM, mais je dois faire mon travail. Et mon travail est de poser des questions dures, des fois, de vérifier les faits. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Récemment, j'ai écrit hier soir sur le taux d'hospitalisation et j'ai vérifié ce que le PM nous a dit. Donc, c'est mon métier de poser des questions dures envers nos politiciens et il faut avoir une imputabilité.
Mm-hmm. Mais il y a quelque chose quand même qui ressort de ces deux rapports, le rapport sur Heron, le rapport sur le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, c'est que depuis les débuts de la pandémie, on a eu l'impression que les gens qui étaient au gouvernement nous disaient des choses sur « oui, la situation est sous contrôle, ça va bien », et qu'en fait, sur le terrain, ça ne se passait pas bien. Et il a fallu le travail des journalistes pour montrer à quel point la situation était difficile. Est-ce que vous pensez que pour cette deuxième vague, que le gouvernement a appris des leçons et que ce qui se passe sur le terrain va être mieux communiqué au gouvernement?
Il y avait vraiment des améliorations. On a plus de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Cependant, j'ai une question sur le fait qu'on n'utilise pas le COVID alert. Ça, c'est une chose. Et il y avait, le gouvernement ne voulait pas vraiment réduire les rassemblements. À un moment donné, il y avait 250 personnes. Maintenant, c'est 25 ans, les régions oranges. Je pense qu'il y a encore des problèmes, une lenteur, des fois un manque de transparence. On se rappelle récemment que Patrick Berry a sorti son scoop, les critères pour passer de vert à jaune et à orange. Et
oui, on l'a reçu à Cube Radio, oui.
Oui, exactement. Oui. Donc, il y a encore des choses à faire. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a des journalistes à Radio-Canada et la presse, côté anglophone, côté francophone, pour poser des
questions. Et le Journal de Montréal aussi.
Oh, oui,
et le Bureau d'enquête,
de
oui.
A fait une très bonne enquête récemment. Il y avait une party à la fin.
Oui.
Son dissociation. Donc, c'est, oui, j'ai beaucoup de respect de ce que les journalistes de Journal de Montréal font régulièrement.
Oui. Je veux revenir au rapport Gagnon sur Aaron, sur ce qui s'est passé là-bas. C'est d'une tristesse, évidemment, inouïe. Quel est, selon vous, Aaron Derfel, ou quelles sont peut-être les recommandations les plus importantes qui ressortent du rapport Gagnon pour s'assurer qu'il n'y ait pas un Aaron 2?
Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une recommandation que même dans... Parce que c'est une... C'est une série des privés non conventionnés.
Oui.
M. Gagnon recommande que les propriétaires, les gérants de ces installations doivent être imputables. Donc, il faudra avoir un mécanisme dans la loi, un changement pour que ces gens soient plus imputables. Et s'il y a des problèmes, que le gouvernement peut intervenir plus rapidement.
Ouais, mais en même temps, plus imputable, ça commence mal, parce que je sais pas si vous avez vu donc le texte de mon collègue Hugo Duchesne dans le journal de ce matin, où il raconte donc les rapports des deux sur les deux CHSLD, et il finit son texte en disant le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et les propriétaires du CHSLD Aaron n'ont pas rappelé le journal. Donc ces gens-là, et ils sont imputables, ces gens-là sont responsables. Vous nous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le propriétaire du Aaron est responsable à 99% de ce qui s'est passé. Ces gens-là ne parlent pas aux journalistes. Ces gens-là n'entament pas de dialogue pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, pour l'imputabilité, oui. On va repasser, là.
Oui, ça, c'est la raison pour laquelle il faut avoir un mécanisme législatif pour forcer une imputabilité. En passant, j'ai reçu une réponse de groupe Katazak qui gère Heron. Oui, et Madame Shaweri m'a expliqué, nous sommes en train, c'est toujours la même réponse, nous sommes en train d'étudier le rapport. Et c'était un commentaire, mais avec aucune signification.
D'accord. Donc, vous l'avez contacté, évidemment, suite à la publication du rapport Gagnon. Et,
oui.
Cette dame, donc, qui est en fait la une des trois propriétaires, hein, parce que Katassa, ben, c'est ça, c'est le nom des trois filles de M. Shaweri. Donc, elle vous a dit, nous sommes en train d'étudier le rapport. Ben, si elles avaient collaboré plus avec M. Gagnon en divulguant des informations, et si dès le départ, au mois de mars, ils avaient ouvert leur livre autant pour le CIUSSS que pour les autres intervenants, ben, des gens ne seraient pas morts, Aaron. Est-ce qu'on peut dire ça?
Exactement. Mais on peut comprendre maintenant pourquoi elle est mal à l'aise, parce qu'il y a une enquête policière qui s'y déroule, des allégations de négligence criminelle concernant la mort. Donc, il y a une réticence pour divulguer des choses. Donc, on a vu dans le rapport, il y a des sections qu'on peut pas voir parce que ça touche les allégations potentiellement criminelles.
Il y a des sections caviardées.
Oui, exactement. Exactement. On présume, parce qu'on voit rien, mais on peut présumer que il y a un volet criminel, parce qu'on sait que les PM, le lendemain que j'ai publié mon premier texte, il a annoncé qu'il a Il voulait que le SPVM enquête le Harris au niveau des propriétaires et peut-être même certaines travailleurs et travailleuses qui ont abandonné leur poste pendant la pandémie.
C'est une histoire d'une tristesse inouïe. Donc, je retiens trois mots. Honteux, épouvantable et tragique, les mots que vous avez utilisés pour parler de la situation à Aaron et de ce rapport très bien fait de M. Gagnon. Merci beaucoup, Aaron Derfel, puis merci pour le travail que vous faites et que continuez à faire pour faire la lumière, justement, sur ce qui se passe sur le terrain. Aaron Derfel, qui est journaliste spécialisé dans les questions de santé au Montréal Gazette. Merci beaucoup. Thank you.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Dernière chronique.
Cube Radio.
On sait que le nerf de la guerre, hein, dans cette lutte contre la COVID-19, ça va être le jour où on va trouver un vaccin. Vous savez peut-être qu'il y a un groupe d'experts, qui conseille le gouvernement fédéral pour l'achat de vaccins contre la COVID-19. Ce qu'on savait pas, c'est que beaucoup de gens qui siègent sur ce comité-là sont en conflit d'intérêts parce que, croyez-le ou non, ils ont des liens avec les grandes compagnies pharmaceutiques. Alors, la raison pour laquelle on le savait pas, c'est que ces gens-là déclaraient leur conflit d'intérêts au gouvernement, mais que cette information-là n'était pas rendue publique. Quel manque de transparence! Heureusement, il y a des journalistes qui ont fouillé l'histoire et qui ont sorti ça. Donc, très bientôt, on va pouvoir savoir exactement quels sont les conflits d'intérêts de ces gens-là. Et quand j'ai vu ça, les mots vaccin, COVID-19, conflit d'intérêts, j'ai tout de suite pensé à mon ami Amir Kadir. Je dis mon ami parce que on aime ça se coltailler à la radio, mais souvent on parle de ça, le Big Pharma. Donc je me suis dit, j'ai hâte de voir ce que Amir en pense. Il est microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier Pierre Legardeur. Monsieur Kadir, bonjour.
Bonjour Madame Desrochers.
Alors, j'ironisais sur le fait que des fois on se coltaille à la radio, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que les intérêts pharmaceutiques sont parfois très inquiétants. Et quand on apprend qu'il y a des experts qui conseillent le gouvernement, qui ont des conflits d'intérêts gros comme le bras, c'est rien pour nous rassurer, M. Kadir?
Madame Durocher, d'abord, je suis pas nécessairement ici, comment je pourrais dire, fâché après ces gens qui ont des liens avec l'industrie pharmaceutique, mais avec les gouvernements qui, depuis 30 ans, ont diminué les budgets de recherche, se sont retirés du domaine de recherche pharmaceutique et, en général, les budgets de recherche ont considérablement diminué et on a laissé la place à la subvention, au financement privé de la recherche. Alors, que doivent faire les chercheurs de pointe qu'on a formés dans nos meilleures universités qui doivent travailler à découvrir des choses, à développer des nouveaux diagnostics, de nouveaux traitements, ben ils se tournent vers l'industrie pharmaceutique et reçoivent des budgets et des financements qui fait que, oui, et malheureusement, cette politique des gouvernements introduit une perversion qui fait que, de manière systématique, les meilleurs chercheurs de pointe qui réussissent à aller chercher ces subventions du privé deviennent compromis en quelque sorte, ça introduit des billets, même si c'est pas toujours conscient, des billets inconscients dans le choix de leurs recommandations, dans la pente que prend leur recherche, et c'est là qu'on se retrouve dans des situations inusitées où le gouvernement veut avoir les meilleurs experts pour les conseiller, mais les meilleurs experts, ben, c'est ceux qui sont allés chercher les financements privés parce qu'il y avait plus de subventions gouvernementales ou très peu. Et donc, s'il y a quelque chose à blâmer là-dedans, c'est le sous-financement de la recherche, ces politiques néolibérales qui, pendant 30 ans, ont consisté à dire le gouvernement ne peut pas occuper la place, on n'a pas de sous, on ne peut pas taxer les plus riches. Donc, on va laisser le privé financer tout ça et orienter la recherche.
Je comprends tout à fait et votre nuance est très importante et je suis très contente que vous la fassiez parce qu'en effet, on n'est pas là aujourd'hui pour blâmer des individus, c'est plus pour se questionner sur le manque de transparence. Comment se fait-il ces gens-là se sont entre eux déclaré leur conflit d'intérêts, mais que cette information-là n'ait pas été rendue publique?
Gêné.
Mais c'est ça. Mais c'est C'est plus que gênant, M. Kadir. Pour une fois, je vais être d'accord avec vous. C'est que c'est un scandale que on nous ait caché ça. Parce que c'est comme si on disait, on va faire rentrer le loup dans la bergerie. Les moutons, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, ils n'ont pas le choix de faire affaire avec le loup. On est d'accord là-dessus.
Oui. Ça d'illustrer quelque chose. Oui. Par exemple, dans toute l'histoire entourant l'hydroxychloroquine et Gilead, avec le remdesivir. On m'a entendu dire que le remdesivir, là, il n'y a pas eu plus d'efficacité ou d'intérêt véritable démontré pour le remdesivir, avec des toutes petites études qui ont démontré dont on a changé les endpoints, c'est-à-dire les effets recherchés en cours de route pour avoir de bons résultats, publier quelques papiers, puis tout de suite, plusieurs scientifiques qui sont de près ou de loin attachés à ces intérêts pharmaceutiques ou des journaux, des grands journaux scientifiques qui reçoivent des annonces.
De Lancet, oui.
Oui, le Lancet s'en est un, mais tous les autres qui reçoivent des pages et des pages d'annonces des produits de Gilead, ont eu un billet de sélection favorable pour ça. Et pour quelques erreurs méthodologiques initiales du professeur Raoult, on a discrédité tout le reste de la recherche qui venait de la Chine, de l'expérience des pays qui l'ont utilisé. Je dis pas que l'un est supérieur à l'autre, mais l'un n'est pas inférieur à l'autre, de mon point de vue, d'après tout le travail que je fais dessus depuis 6 mois, mais tout le monde le constate, les praticiens le constatent, ils sont un petit peu, ils sont dans l'interrogation, ils se demandent, mais bon sang, comment ça se fait que les autorités appuient le remdesivir, puis discréditent avec autant de force l'hydroxychloroquine? Là vient ce biais systémique, qui n'est pas le choix individuel de tel et tel individu, mais c'est à cause de toute cette part trop grande de l'industrie privée dans la détermination de l'orientation de nos choix.
Donc aujourd'hui, vous continuez à vous intéresser à l'hydroxychloroquine, vous continuez...
Pas tellement, parce que malheureusement, il n'y a pas de miracle, ni dans le remdesivir, ni dans l'hydroxychloroquine. Chacun a probablement sa place à des moments très, très particuliers. Mais on sait que dans les pays où ça a été largement utilisé de manière beaucoup plus libérale, comme au Portugal, au Maroc, en Inde, en Chine, dans les pays asiatiques, la mortalité est plus basse que dans les pays qui l'ont interdit, même d'usage comme la France ou la Grande-Bretagne.
Mm-hmm. Donc c'est sûr que là, ce que ça fait en fait cette situation-là, vous avez raison, la situation avec l'hydroxychloroquine, l'étude qui a été publiée, qui ensuite a été retirée, ce secret qui entoure les conflits d'intérêts des gens qui siègent sur le comité qui doit conseiller le gouvernement sur le vaccin, vous avouerez avec moi que ça donne quand même certaines munitions à ceux qu'on appelle les complotistes ou les conspirationnistes, et c'est plate parce que ce sont des gens...
Mais
ça nourrit la méfiance, voilà. Et c'est très dommage parce que c'est trop facile de dire « Oh, tous les gens qui sont anti-masques, c'est des coucous, c'est des fous furieux, c'est des gens qui sont pas crédibles. » Des fois, tu sais, une horloge arrêtée à raison 2 fois par jour, là, des fois, il y a quand même des choses où on se dit « Il y a peut-être pas des complots partout, mais il y a des apparences de conflits d'intérêts, en tout cas. »
Moi, je n'ai jamais blâmé les gens qui sont contre ça et toutes les accusés d'être des abrutis. Parce que, il y a des gens qui sont carrément un peu en dehors de la traque. Mais le fait qu'il y a des questionnements, je trouve ça sain. Il faut discuter, il faut garder les canaux de communication ouverts. Ce qui est certain, je suis d'accord avec vous, et c'est là qu'il faut faire la différence. Il n'y a pas un grand complot planétaire où des milliers de gens seraient en train de nous arranger quelque... Non, le seul complot permanent et constant, c'est le complot des intérêts. Il y a de l'ignorance, il y a des cachotteries, il y a des gens qui essayent, chacun de leur barre, de tirer la couverture de leur côté. Et plus on est puissant, plus on s'appelle des grosses compagnies pharmaceutiques ou des grosses banques, mais on a la capacité de contrôler le message, d'influencer les décisions. Donc, c'est à travers tout ça qu'il faut y voir clair. Et c'est pour ça que les gouvernements aujourd'hui doivent faire preuve de plus de transparence possible, ce qui nous revient au gouvernement fédéral. Il me semble que dès le début, le gouvernement aurait dû annoncer ça. Écoutez, on fait notre travail. Voici des gens qui ont des conflits d'intérêts, mais on a mis ces mécanismes, 2-3 mécanismes particuliers pour s'assurer que leur lien avec les compagnies pharmaceutiques n'influe pas indûment sur les choix.
Voilà. Si, c'est ça. Si dès le départ, Ottawa avait été transparent, ben on serait pas aujourd'hui dans une situation où il y a plein de gens qui disent « Oh mon Dieu! » Tu sais, on essaye. C'est qu'en fait, ce que les conspirationnistes disent, c'est le gouvernement nous cache des choses. À partir du moment où le gouvernement fait, en effet, exactement ce que les conspirationnistes disent, ben ça ne fait qu'alimenter, et c'est ça vraiment très très triste. Monsieur Kadir,
en fait,
vous avez
l'histoire du Remdesivir puis l'étude du Lancet puis cette histoire là, ce genre d'histoire là, ça nourrit la méfiance. Faut vraiment que les décideurs publics changent d'attitude et soient plus prudents de ce point de vue là.
Oui. Alors Monsieur Kadir,
le monde vont finir par déconnecter.
Ben voilà, tout à fait. Ben c'est quelque chose qu'on dit dans, ça s'applique dans différentes sphères de la société aussi. Si on n'est pas transparent avec les gens, par exemple sur les politiques d'immigration, sur toutes sortes de sujets, qu'on ne dit pas les vraies choses à la population, mais la population se tourne vers des extrémistes, vers des gourous qui vont leur promettre toutes sortes de choses. La transparence, c'est quand même ce qu'on la chose de base qu'on demande au gouvernement. Monsieur Kadir, vous avez accepté très gentiment de nous parler aujourd'hui. Je sais que votre temps est compté, mais il y a un dossier. Vous avez accepté, par contre, de nous parler parce qu'il y a une chose dont vous vouliez absolument que vous vouliez évoquer. Voilà. Bon, alors allez-y parce que ça c'est important. Je veux vous entendre là-dessus.
Très bien. Donc, pour contrôler la pandémie, on doit faire preuve de prudence partout. Maintenant, on sait, les données s'accumulent pour nous indiquer que l'infection se transmet aussi, et peut-être de manière assez importante, certains prétendent même de manière plus prépondérante par voie d'aérosol aérienne que le contact, les gouttelettes, etc. Donc, le 2 mètres, c'est bien beau, se laver les mains, c'est bien beau, même porter les masques, c'est bien beau, mais il faut, dans les endroits clos, où il y a quelques-uns de toute façon qui porteront pas le masque ou vont l'enlever pour se parler, comme dans les classes, s'assurer qu'il y a une bonne filtration ou aération. À défaut d'avoir des systèmes d'aération dans toutes nos écoles, parce qu'on les a pas, hein, on le sait, je sais pas combien de classes, je pense qu'on a 30 000 classes au Québec, on n'a pas des systèmes de ventilation pour avoir un échange de 5 échanges par heure d'air dans nos classes, ben il faut les ouvrir ou il faut installer des fils, il faut faire quelque chose, parce que si on ne s'assure pas de ça bientôt, avec l'augmentation du niveau d'incidence et du nombre de cas, ben les classes pourraient devenir des foyers de propagation et de super propagation. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Je sais qu'il y a des experts qui sont en train d'essayer de faire des recommandations au gouvernement, mais j'en appelle à la responsabilité du ministère de l'Éducation. Il faut pas que son plan soit muet là-dessus. Qu'est-ce qu'on pense faire de la bonne ventilation, de la qualité d'air dans les classes? Parce que si on n'a pas de moyens de bien ventiler, ben on va favoriser la propagation.
Et est-ce que l'option d'imposer le masque en classe, qui est une option qui est invoquée par beaucoup de spécialistes, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recommandez, M. Kadir?
Ça pourrait être un de ceux-là, mais ça ne peut pas être que ça, parce que il y a un certain niveau à partir de, je sais pas, 8 ans ou 10 ans, en bas de 10 ou 8 ans, on sera probablement pas capable, ou enfin, il faut y réfléchir, et donc, on peut penser à d'autres moyens de mitigation, donc, ouvrir les fenêtres plusieurs fois durant la classe, augmenter le chauffage pour pouvoir permettre ça ou installer des échangeurs d'air avec des filtres. Il y a plusieurs moyens techniques, mais il faut y voir.
Absolument. Bon, on écoute,
merci,
on espère
Madame Durocher, de votre attention.
Merci beaucoup, docteur Amir Kadir, donc, qui prenait le temps de nous parler aujourd'hui. Il est bien gentil. Écoutez, juste avant d'aller en entrevue, il y avait un appel des soins intensifs, donc c'est très, très apprécié de sa part. Donc, Amir Kadir, qui est microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier Pierre Le Gardap. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain.
Cube Radio.